Radio Kapi.
Oh, Kapi. Zirel Kanyama à la présentation.
Voici les titres de votre journal Sud Kivu. Des dégâts humains et matériels enregistrés hier samedi dans un incendie du camp des sinistrés de Bouchouchou en territoire de Kalehe. La société civile avance le bilan provisoire de 7 morts, 2 blessés, plus de 400 abris de sinistrés et de biens calcinés. Le cadre de concertation territoriale de la société civile l'annonce. La situation globale des voies d'évacuation des produits agricoles dans le pays et l'urgence des actions pour le désenclavement des bassins de production au menu du 109e Conseil des ministres présidé vendredi dernier par le chef de l'État. Le gouvernement ainsi décide d'agir au plus vite face à ces constats. L'invité de ce journal est le point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu. Mireille Mbouyi revient sur la sensibilisation du public à la réponse humanitaire. Et à présent, les détails au Sud Kivu. Plusieurs dégâts humains et matériels ont été enregistrés hier samedi dans un incendie du camp des sinistrés de Bouchouchou à Mouchoubezo, en territoire de Kalehe. Le bilan provisoire est de 7 morts et 2 blessés, ainsi que plus de 400 abris de sinistrés et des biens calcinés. Le cadre de concertation territoriale de la société civile de Kalehe, qui le rapporte, sollicite une assistance du gouvernement et des humanitaires. Delphine Birimbi, son président, est au téléphone de Rachel Kessembangou.
Un incendie grave venait de se produire dans le camp provisoire de Mouchonezo à Calais Centre. Il y a comme bilan provisoire 7 morts, 2 blessés graves internés à l'hôpital général d'Ioussi et plus de 400 abris et des biens de population calcinés dans ces abris provisoires au camp de Mouchonezo. Étant à Kinshasa dans des actions de plaidoyer, nous continuons à présenter nos condoléances à notre population du territoire de Calais, surtout nos frères sinistrés qui venaient encore de perdre de leurs abris provisoires, les biens et des personnes, tout en demandant au gouvernement provincial et national, ainsi que des humanitaires, de continuer à venir en aide de nos frères sinistrés, et ceci en attendant les solutions définitives à la question de la délocalisation définitive de nos frères sinistrés de l'axe Bouchouchou et Nyamukubi.
Sud Kivu encore, cette fois dans la ville de Bukavu, au quartier Mpanzi, la population de l'avenir Mulungulungu a brûlé une fille de 17 ans dans la matinée d'hier samedi. Pour cause, elle serait soupçonnée d'être à la base des incendies sur cette avenue. Selon la société civile, la victime, Binja BCP, orpheline de père et dont la mère reste à Kabaré dans le groupement de Moudoussa, a été enlevée en cours de chemin pendant qu'elle s'est rendue à l'église, dont les installations ont également été sabotées par cette même population. La société civile condamne ce comportement et demande que justice soit faite. Écoutez plutôt David Tsikourou, président de la société civile du quartier Ndendere, au micro de Rachel Kessembangou.
Une fillette vient d'être brûlée vive. Les informations à notre possession disent que la fille a été soupçonnée d'être responsable des incendies qui se font à Panzi. Et on l'a attrapée avec un bidon de carburant. C'est comme ça qu'on l'a soupçonnée parce qu'à Célier, il y a eu 50 maisons qui étaient incendiées la semaine passée. Mais aussi hier, il y a eu 6 maisons qui ont été encore incendiées. Et la population, la masse en colère, a pris la fille et l'a amenée quelque part où elle vient d'être brûlée. Notre regret que nous avons alerté la police pour qu'elle intervienne, malheureusement, c'est maintenant que le chef de quartier est venu avec des militaires et des policiers car la fille a déjà perdu la vie. Nous déplorons tous ces cas. Demandons à la population de pas se rendre justice. Il faudrait d'abord que la justice puisse écouter la demoiselle, qu'on puisse savoir établir les responsabilités. Mais brûler quelqu'un parce qu'il a du carburant en main, est-ce que c'est elle qui aurait brûlé les maisons? Est-ce que c'est le carburant qui les détenait? Il est difficile de le confirmer.
En bref, dans la province de Lomami, une femme est morte par foudre hier samedi dans la cité de Kamana, en territoire de Lubao, alors que la saison sèche se poursuit dans cette partie de la province. Les témoins affirment que la foudre est tombée vers 15h sur la défunte qui transportait son bébé dont la vie n'est pas en danger. La même source précise que la défunte laisse derrière elle plusieurs orphelins. Signalons que cette situation a créé une panique sur la cité, étant donné que la foudre a surpris la défunte sans faire tomber aucune goutte de pluie. La situation globale des voies d'évacuation des produits agricoles dans le pays et l'urgence des actions pour le désenclavement des bassins de production étaient au menu du 109e Conseil des ministres présidé vendredi dernier à Kinshasa par le chef de l'État. Selon le gouvernement, le mauvais état des voies d'évacuation des produits agricoles reste l'une des contraintes majeures qui limitent les possibilités d'accroissement de la production agricole locale et d'approvisionnement des villes et autres grands centres de consommation. Fort de ce constat, le gouvernement décide d'agir au plus vite. On écoute à ce sujet la précision donnée par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres. Ses propos ont été recueillis par Pelle Kipela Mondo.
Face à cette situation, à travers l'action 147 du programme d'action du gouvernement 2021-2023, le gouvernement a prévu de réhabiliter et d'améliorer les voies ferroviaires, les routes des dessertes agricoles et de draguer et baliser les voies fluviales. Pour le président de la République, ces infrastructures constituent les maillons essentiels pour l'accroissement de la production agricole, l'augmentation des revenus des millions des ménages impliqués dans l'agriculture familiale et de manière générale, l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales. En plus des interventions prévues par les volets routes des dessertes agricoles et ouvrages d'art du programme PDL 145 territoires, il est nécessaire que les capacités opérationnelles de l'Office de voirie des dessertes agricoles OVDA soient renforcer que son implication dans l'exécution du PDL soit améliorée. Le président de la République a rappelé que le gouvernement avait pris l'engagement d'accélérer la mise en place du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires FONEF, le but de cette initiative étant de mettre en place un mécanisme de mobilisation de ressources financières adéquates, autonomes et pérennes pour l'aménagement et l'entretien des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo.
À Beni, le directeur provincial de l'Office des routes au Nord Kivu, Papi Minga, apprécie l'exécution des travaux de construction de la route Beni-Kassindi, confiée à l'entreprise indienne Dot Service, en dépit d'une lenteur constatée. Il a dit vendredi dernier, au terme de sa mission d'évaluation de ces travaux qui ont commencé depuis bientôt 2 ans, Papi Minga promet toutefois de faire un plaidoyer auprès de l'entreprise Dot Service pour qu'elle accélère les travaux. Il explique dans ses propos choisis par André Kitenge.
Faire une évaluation de nos axes ici, voir l'état de la route, surtout la route qui est concédée de la RN4 Beni Kassindi et Kassindi Butembo, parce que nous avons une concession où les Ouganais sont en train de travailler. Alors il fallait que je vienne voir l'état d'avancement de cette route, ça c'est un. Et puis de deux, il y a une autre concession aussi qui commence de Butembo jusqu'à Kanyabayong. Ça c'est la Banque mondiale qui avait déjà envoyé les entreprises qui sont venues faire une visite de chantier. C'était voir comment nous allons être impliqués dans ces projets-là. Sur terrain, l'état d'avancement, il y a une note de satisfaction au niveau de Beni Kassindi. On voit quand même qu'il y a une mobilisation et les travaux d'élargissement avec l'entreprise d'os évoluent. Mais on trouve que c'est le rendement un peu faible. Mais on a demandé qu'il puisse accélérer. Et le deuxième lot, c'est Beni Butembo, où on cherche d'abord la base ville là où ils vont s'installer. Nous devons quand même faire pression pour que les travaux puissent bien continuer. Vous savez, au début, on ne croyait pas que cette concession pouvait être vraiment réaliste, mais on trouve que d'ici la fin de l'année, je crois que la route Beni Kassindi sera vraiment bien entretenue et puis nous passerons à d'autres.
Toujours au nord Kivu, deux têtes d'érosion menacent de couper la ville de Goma dans sa partie nord de la province sur la route nationale numéro 2 au niveau des escarpements de Kabacha. C'est à environ 17 km de la Ruindi dans le parc national de Virunga en territoire de Rutshuru. Le constat a été fait par la délégation du conseiller principal du gouverneur du nord Kivu en charge des infrastructures. C'est à l'issue d'une mission d'évaluation des projets des 145 territoires au sud de Lubero. Maître David Kamua alerte sur cette situation mais rassure tout de même de la volonté du gouvernement central à trouver une solution. Ces propos ont été recueillis ici par la presse du gouvernorat.
Pour l'étape de Kanyabayonga, il s'agissait de venir voir le délabrement de la route au niveau des escarpements de Kabacha. Et nous nous sommes rendus compte des deux endroits les plus compliqués et nous allons faire rapport à son excellence, monsieur le gouverneur. Mais nous savons que c'est sur la nationale numéro 2 et donc de la responsabilité du gouvernement central. Et nous allons plaider pour qu'avant la reprise de la circulation entre Goma, Kanyabayonga, Butembo, que ces deux endroits soient réhabilités. Nous avons également profité de notre occasion pour rappeler à la population que d'ici la fin de l'année, le chef de l'État lui-même ou son délégué viendra ici à Kanyabayonga pour lancer les travaux de l'asphaltage de la route Kanyabayonga-Kerumba-Butembo. Avec l'appui de la Banque mondiale, mais sur initiative de son excellence, monsieur le président de la République, avec le concours des autorités provinciales, le lieutenant général Costa Nima, cette route sera asphaltée dans quelques mois.
Et dans la... Dans la province de la Tchopo, les fabricants des foyers améliorés viennent de se constituer en association. Dénommée Association des fabricants des foyers améliorés de la Tchopo, AFAPT, elle a effectué sa sortie officielle vendredi dernier à Kisangani. Appuyée par CIFOR, cette corporation milite pour la consommation rationnelle des braises dans l'objectif de lutter contre la déforestation. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
Plus de 70 personnes issues de 40 micro-entreprises de fabrication de brasiers ont partagé d'abord leurs expériences dans ce domaine avant d'être présentées à la ministre provinciale en charge de l'énergie comme membre de l'AFAPT. Le président de cette plateforme, Robert Bondo, explique les objectifs et les avantages y afférents.
Nous voulons augmenter la production dans la ville d'Exanga de Foya Meloro. C'est pour cela que nous appelons tout le monde. Nous voulons les encadrer, d'abord qu'ils soient aussi les entreprises comme nous et qu'ils bénéficient des avantages qui sont prévu dans les statuts du plateforme. Et puis l'association les donne des formations pour améliorer les qualités de production.
Après avoir reçu des explications sur le fonctionnement et l'utilité de ces foyers améliorés, la ministre provinciale de Mines et Énergie les rassure de son implication pour la promotion de cette entreprise. Anel Mondengue.
Vous rassure qu'il sera toujours à vos côtés pour contribuer à augmenter l'efficience énergétique dans le plus grand nombre de ménages afin d'améliorer leurs moyens de subsistance en passant par la réduction de la pression sur nos forêts.
Dans l'objectif de lutter contre la déforestation, le CIFOR promet d'appuyer suffisamment les fabricants dans l'objectif de réduire sensiblement la pression sur la forêt. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En bref, le calme est revenu dans la localité de Luna, à plus ou moins 45 km de Beni, à la limite entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est après des combats qui ont opposé hier samedi les FARDC appuyés par la MONUSCO aux rebelles des ADF. Selon Germain Kakule Vatsurana, le président du conseil de la jeunesse d'Eringeti, plusieurs habitants qui ont fui Luna vers le centre d'Eringeti sont déjà revenus dans leur milieu. L'armée de son côté dit poursuivre toujours les assaillants ce dimanche dans la forêt de Kasoko, à l'ouest d'Eringeti. En bref, toujours, le chef d'état-major général des FARDC a visité vendredi dernier le centre d'instruction militaire de Moura à Likasi dans le Haut-Katanga. Au cours de sa causerie morale, il a demandé aux recrues qui sont en formation et qui vont bientôt intégrer les forces armées de demeurer disciplinées, loyales aux institutions pour ne jamais trahir la nation. Le lieutenant-général Christian Tchiwewe s'est félicité de la qualité de la formation que reçoivent ces 7000 jeunes qui seront appelés à défendre le pays. Notons qu'avant d'atteindre le Haut-Katanga, il a effectué une mission analogue à la base militaire de Kamina, toujours dans les Haut-Lomami. Au Maniema, après plus d'un mois de fermeture, les écrans géants placés dans la ville de Kindu par Augustin Matatampogno et Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, ont repris du service à la grande joie de la population. Pour rappel, ces écrans permettaient à la population de se divertir en suivant des programmes télévisés tels que des matchs de football, films, journaux télévisés et autres. Ils ne fonctionnaient plus sur décision du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala qui avait justifié la mesure de fermeture par des impératifs sécuritaires. Des détails avec Florence Kizalunga.
C'est l'ambiance qui règne aux endroits où sont placés les écrans géants. Enfants, jeunes et vieux viennent passer du temps ici pour se divertir. Certains assis et d'autres debout, les yeux rivés sur l'écran géant. Quelques enfants témoignent.
Je suis devant l'écran géant ici, je m'amuse avec mes amis, je vois les dessins animés, je suis très contente.
Nous sommes contents, on a ouvert notre écran, nous étions mal à l'aise pendant les vacances.
Je suis ici dans la joie. On a ouvert l'écran géant. Chez nous, on n'a pas de télévision. Je m'amuse ici.
Moi, je reste ici avec mes amis. Merci, papa Mapan.
Même sentiment de satisfaction du côté des adultes.
Vraiment, nous sommes tellement contents de la réouverture de l'écran à l'espace Mapan. On était confrontés à de nombreux problèmes. On n'avait pas eu le droit d'accès à l'information du pays. Et comme il y a les différents championnats qui s'ouvrent maintenant, ça nous donne les temps aussi de se relaxer dans les après-midi et nous sommes toujours contents.
Signalons que c'est depuis le 3 juillet dernier que les deux écrans placés l'un à l'espace Mapon et l'autre à la tribune sont restés fermés. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu obtenir la réaction du gouverneur intérimaire pour connaître le motif de la levée de sa mesure. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Une délégation conduite par l'ancien président nigérien Abdoul Zamani Aboubakar a été accueillie hier samedi à l'aéroport de Niamey par le nouveau premier ministre nommé par les militaires Ali Mahaman Lamine Zeyn. Elle a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum, qui est retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet et dont la CDAO et de nombreux pays exigent la libération et le retour au pouvoir. M. Aboubakar s'est également entretenu avec le général Tiani samedi après-midi. Le président chinois se rendra la semaine prochaine en Afrique du Sud, où il effectuera une visite d'État et participera au sommet des BRICS, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères vendredi dernier. L'Afrique est un nouvel enjeu diplomatique pour l'Occident, la Russie et la Chine, qui se disputent l'influence dans un contexte de division attisé par les conflits en Ukraine.
L'invité.
L'invité de ce journal est le point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu. Mireille Mbouy revient sur l'acceptation de l'aide par les communautés à travers la collaboration entre les bénéficiaires et les humanitaires. On ne doit pas vivre en belligérance avec l'humanitaire. C'est le message lancé hier samedi par les organisations humanitaires féminines du Sud Kivu lors de la sensibilisation du public à la réponse humanitaire. C'était à travers une conférence sur la journée mondiale de l'aide humanitaire qui a eu lieu au PAM Bukavu. Mireille Mbouy s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Madame Mireille, bonjour. Quel est l'apport des organisations féminines humanitaires dans la réponse humanitaire au Sud Kivu?
Nous sommes en train de commémorer ce que nous donnons dans le monde humanitaire parce que ce n'est pas une tâche facile. Nous sommes exposés à tout. Pendant que nous allons sauver des vies, nous allons aider les autres. Et les organisations humanitaires féminines du Sud Kivu sont actives depuis très longtemps et elles se restructurent du jour au lendemain. Je vais juste citer les cas récents de Calais où j'ai vu les femmes mobilisées pour aller aider les autres femmes qui ont connu de sérieux problèmes. On a quand même amené un ouf de soulagement. Au niveau de la nouvelle société civile congolaise, quand la coordonnatrice avait vu qu'on avait aussi ses devoirs d'aller soutenir le nôtre qui était en difficulté, mais on n'avait pas de fonds à l'interne, elle nous avait appelé à contourner tous les marchés de la ville, les magasins, avec nos paniers, demander aux gens que celui qui a 500 francs, 1000 francs, cotise pour que nous ayons quelque chose à mener à Calais. Et c'est quelque chose qui a été fait. On avait trouvé un petit rien, mais quand on a amené ça, il fallait voir comment on a été reçu. Et je comprends que nous sommes battantes, nous sommes impliquées. L'humanitaire nous concerne.
Comment sensibilisez-vous le public sur l'accès humanitaire et l'acceptance communautaire?
Je voulais seulement dire au public qu'on ne doit pas vivre en belligérance avec l'humanitaire. L'humanitaire est là pour aider la population. Ça ne donne pas une belle image quand il y a les organisations qui viennent de fois et refoulées par les bénéficiaires. Ça frustre quelque part. On doit collaborer. Quand quelqu'un te donne même un petit rien, c'est déjà beaucoup. Et s'il y a de quoi que je pense que chez nous en Afrique, on se parle. Là où il y a un ça ne va pas, au lieu de refouler avec méchanceté, il serait bon d'approcher la personne que tu veux refouler. Pour moi, je ne comprends pas ça. Il t'expliquera pour que vous puissiez faire la marche ensemble au lieu de refouler les humanitaires, au lieu de refouler les aides qu'ils amènent.
Quel est l'état des lieux que vous pouvez faire en ce jour de l'aide humanitaire dans notre province?
Je dirais que l'aide humanitaire est acceptée et c'est donné à toutes les couches. Donc on respecte l'aide selon les catégories des personnes. On spécifie l'aide. Nous avons les femmes qui reçoivent de l'aide, il y a les hommes, il y a les personnes vivant avec handicap qui reçoivent de l'aide et nous trouvons que ça va.
Pour rappel, madame, que font les humanitaires au sein de la communauté? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi votre travail?
Notre travail, c'est de faire du bien universellement. Un humanitaire n'a pas de couleur, donc je ne veux pas dire que celui-ci n'est pas de ma race, je ne peux pas l'aider. Un humanitaire n'a pas de langue, même si tu parles une langue qui n'est pas ma langue, parce que tu es dans l'état qu'on doit t'aider, je dois le faire. Et nous sommes là pour aider tout le monde. Les gens qui sont dans la souffrance pendant les catastrophes naturelles comme celles que nous avons vues à Calais, les inondations et aussi les incendies, même les affres de guerre. C'est ça l'humanitaire.
Quelles sont les difficultés que les actrices humanitaires rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions dans le Sud Kivu?
Oui, je dirais qu'il y a les challenges. Nous avons les organisations qui sont chapeautées par les hommes, qui ont commencé et avec nos us et coutumes, voir une femme émerger, il y a les autres qui se battent encore avec leur cerveau pour accepter ça. Comment une femme peut diriger une organisation? Autre chose, il y a la non-acceptance entre nous femmes. Quand il y a une femme qui émerge dans les sphères humanitaires, il y a les autres peut-être qui ne l'acceptent pas. On ne va pas nous taire. Nous allons les dire. Beaucoup des organisations féminines ne sont pas financées. Vous allez voir, même pour aller donner une réponse, c'est tout un problème. Parmi les défis que nous rencontrons aussi, c'est le kidnapping des acteurs humanitaires. Ça ne donne pas la joie quand un humanitaire expose sa vie pour aider les communautés, qu'il soit victime de kidnapping. Je sais que là, ils sont maltraités. Quelqu'un qui sème la paix, il faut lui retourner la paix. Quelqu'un qui sème la joie, il faut lui retourner ce qu'il a semé, parce qu'on dit on récolte que ce qu'on a semé. Celui qui a semé l'aide, aidez-le. Nous sommes les humains comme tous les autres et nous avons besoin aussi de l'accompagnement, que ce soit de nos autorités, que ce soit des services de sécurité, que ce soit de la population que nous sommes en train d'aider.
Je vous remercie.
Et moi aussi, je vous remercie.
Et c'était l'invité de ce journal, le point focal des organisations humanitaires féminines du site Kivu. Mireille Mbouy s'entretenait à Bukavu avec Rachel Kiesembangu. Fin de cette édition qui a été mise en onde par Alain Goy, Jacques-Yves Molima l'a coordonnée et Pelekipe Lamondo l'a supervisée. Merci à vous de l'avoir écoutée.